Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Du Trisac.
Alain Pronkin est avec nous, il aime parler et il connaît les religions. Alain, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bon, alors on va y aller tout de suite pour pas perdre de temps parce que tu veux nous parler d'abord du pape François.
Oui, la première nouvelle, on lui a posé la question comment est-ce qu'il imaginait sa mort et comment est-ce qu'il combattait les névroses. Ça va bien pour un pape.
Oui.
C'est parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Nelson Castro qui a décidé d'écrire un livre sur la santé des papes. On sait qu'il y a des papes qui sont morts, je pense, d'infarctus, d'autres qui sont morts par des cancers. Et lui, il s'intéresse à leur santé. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'on va, y aller un petit peu simplement. Le pape François, lui, il a eu, au niveau des problèmes de santé, il a eu deux blessures principales. Une au bas du corps, qui est ses sciatiques, puis une au haut du corps, parce que semble-t-il qu'il y a eu des cataractes, il a été opéré en 2018. On sait ça. On sait qu'il y a eu des problèmes de poumons. Mais
toi, tu parles comme un coach du Canadien de Montréal.
Oui, parce que tu vois, pour les papes, on gêne pas pour parler des cataractes, du sciatique.
Ouais,
mais
ouais.
Pas pour un joueur de hockey.
Oui, c'est ça.
J'espère qu'il y en a pas trop qui ont des cataractes au hockey. Là. Ça serait vite.
Non, ils sont trop jeunes pour avoir ça.
Oui, mais ça, c'est de la façon qu'il lance au but des fois. Là, mais... pour poser des
questions. S'il n'y a pas les yeux crachent. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le pape, là?
Oui, ben les névroses, parce qu'on se pose la question, il y a eu des névroses. Il dit oui, parce que il a consulté à l'époque au niveau d'un psychiatre qui lui donnait des conseils parce qu'il avait beaucoup de difficultés à gérer le stress et la peur parce qu'il était dans une dictature où il fallait qu'il sauve des vies humaines, où il fallait qu'il aille rencontrer les gens, qu'il essaie de sortir des pays, des convaincre qu'ils pouvaient pas rester dans le pays parce qu'ils pouvaient se faire tuer. Et ça a été extrêmement dur pour lui à ce moment-là d'être pris avec aider ces gens-là qui vont peut-être être tué par le régime militaire puis être pris d'autre part à discuter avec le régime militaire. Fait que là, il a combattu ses névroses, puis on lui disait, mais écoute, comment tu dois gérer tes craintes, gérer tes peurs? Au niveau de sa mort, il dit qu'il n'a pas peur de mourir, et là, il nous dit la chose suivante, et ça a surpris beaucoup de gens, mais il faut pas oublier, c'est en 2019. Il a dit, moi, il dit, je vais mourir ou je vais être pape encore en fonction. Ça veut dire que ça, il imaginait peut-être un infarctus. Ou je vais être pape émérite comme Benoît XVI, puis je vais être retiré, puis je vais mourir tranquillement de ma belle mort. Mais ce qui a surpris, c'est pas qu'ils disent qu'il va finir comme Benoît XVI démissionné, c'est qu'il dit « je ne retournerai pas en Argentine ». Pourtant, il a gardé son passeport, l'Argentin. Pourtant, il a continué de payer ses billets de saison. Puis pourtant, maintenant, il prend pour deux équipes rivales là, en Argentine. Ça, c'est comme si tu prends les Canadiens et les Nordiques en même temps. Et là, les gens sont restés surpris. Ils disent, ça se peut pas qu'il reste à Rome. C'est pas sa place Rome. Il va s'ennuyer à Rome. Mais c'est ce qu'il a déclaré. Et ça sort dans un livre. Ben, le livre est sorti hier là, de Nelson Castro sur la santé des papes. C'est un livre qui va être intéressant, qu'il va falloir que je me procure.
Bon, des nouvelles du cardinal Lacroix.
Oui, le cardinal Lacroix était pas tellement content, mais il l'a fait d'une façon diplomatique, comme on le connaît. C'est qu'il dit, je ne comprends pas. Il dit, nous, on est pris avec 10 personnes maximum dans nos églises et 25 lors de funérailles. Et on arrive dans des salles de cinéma, on va à 250 personnes. Il dit, c'est quoi la norme? Pense toujours à l'église Notre-Dame ou la basilique Notre-Dame. C'est immense, 10 personnes aux 25. Là, il a contesté. Je sais qu'à Montréal, ils ont fait des pétitions. Il y a eu 7300 personnes qui ont signé des pétitions pour contester cette décision-là. Puis dire, écoutez, on peut-tu monter comme une salle de cinéma à 250 personnes? Surtout à Québec, où je pense qu'on commence à même critiquer le fait qu'on est en zone rouge. Moi, la seule chose que je me souviens, Benoît, mais toi, t'es beaucoup trop jeune pour te souvenir de ça. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait des films dans les sous-sols d'église. Fait qu'on a juste à présenter des films dans les sous-sols d'église.
Ben oui.
On pourrait aller chercher 250 personnes.
Mais j'en ai vu, moi, des films au sous-sol d'église.
J'étais jeune, Benoît. Là. J'étais au primaire, moi, dans ce temps-là.
Sais-tu ce qu'ils nous avaient présenté?
Lequel des films?
Alfred Hitchcock, un de ses derniers films en 1972, 13, 14. Là.
OK.
Puis il y avait des seins nus dans le film.
Ah, mon Dieu. Non, ça nous, on n'avait pas ça. Moi, j'avais John Wayne. tous les films de John Wayne. On l'a eu avec les Cowboys, les Indiens. Là, c'est des films qu'on peut pas passer aujourd'hui,
non
mais
plus.
Qu'on nous montrait dans le sous-sol d'église.
Ouais, je pense qu'ils sont plus censurés, ces films-là, que celui que j'ai vu.
Oui, d'après moi, oui.
Bon, c'est
tout. Oublions pas, Benoît, le 4 avril, c'est Pâques. Je vois mal les églises pour Pâques être prises avec 10 personnes dans l'église.
Ouais, ça va être tranquille, hein?
Oui.
En Suisse?
Oui, en Suisse, ça, c'est majeur. On sait qu'en Suisse, ils ont déjà passé un référendum pour interdire les minarets sur les mosquées. Et ça avait passé. Et là, il y a un deuxième référendum qui a lieu le dimanche 7 mars, c'est comme cette semaine, pour l'interdiction de la burqa dans tout l'espace public. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'au début, les gens étaient en faveur de cette interdiction-là à environ 56 %. Et là, c'est tombé à 49 %.
Ah ouais.
Le gouvernement a fait une offensive en disant, écoutez, on va l'interdire pour avoir des services publics. Ça veut dire, vous vous présentez à l'hôpital, il va falloir vous montrer votre visage, vous ne pouvez pas y aller en burqa. Ouais, on parle d'environ 30 femmes pour l'ensemble de la Suisse. Mais le référendum est là. Et ce qu'on sait des gens, parce que même si tu n'habites pas en Suisse, tu as le droit de voter si, évidemment, tu es un Suisse. Et là, c'est glissé. Il était à 74 % pour cette initiative-là citoyenne. Et là, c'est descendu à 58 % Et là, on se pose la question, est-ce que le gouvernement va gagner le pari? Est-ce qu'on va dire, ben écoutez, pour la burqa, on va juste l'interdire si les gens demandent un service public?
Ben
mais
oui.
C'est gros, parce que c'est quand même une question importante, puis c'est la réaction des gens dans un référendum populaire.
On va pas recommencer avec ça, là, la burqa. C'est bon.
Ben, ils sont dedans en Suisse, Benoît. C'est le 7.
Ouais. Benoît XVI juge dangereux le voyage du pape François en Irak.
Oui, on sait que vendredi, le pape François s'en va en Irak. Et le Benoît XVI, c'est très, très, très rare qu'il donne des interviews. Et là, il en a donné une. Il dit, moi, je trouve ça dangereux qu'il aille en Irak. C'est la première fois qu'un pape va se rendre en Irak.
Mmh.
Et en plus, Benoît XVI a rajouté, il n'y a qu'un seul pape. Je ne suis plus pape, même si je m'habille en blanc comme le pape. C'est François le pape. Fait qu'il est revenu, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, est-ce qu'il peut être pape? Bon, il dit, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que François, le premier problème du voyage de François en Irak, la sécurité. Parce que Daesh fait encore des incursions, il y a des explosions un peu partout, donc on est dans des problèmes de sécurité. Donc c'est le premier problème qu'on a vendredi. L'autre chose, c'est que le pape, lui, on le sait, il voyage toujours dans les pays où ça va mal. Dans les pays que la guerre, dans les pays que la discrimination importante. Et là, en Irak, on l'attend parce que, imagine, à Bagdad, la population des chrétiens est passée de 750 000 chrétiens en 2003 à 75 000. Et là, il va sûrement faire des discours au niveau de la pastorale pour dire, écoutez, on va garder la foi des chrétiens qui sont toujours en Irak, mais ça va très mal en Irak au niveau des chrétiens,
parce
que le pays se vide.
On n'en parle pas beaucoup de ça, hein?
Pas beaucoup.
Non.
Mais imagine, de 750 000 à 75 000.
Ouais. Moi, puis ils sont allés où?
Oh mon Dieu, ils sont allés un peu partout. Ils sont allés en Europe, ils sont allés dans des pays beaucoup plus accueillants.
C'est ça, hein?
Mais...
Ils sont pas allés en Égypte, là, où il y a des islamistes qui en ont assassiné à la sortie d'église.
Oui, ça, on le sait. Puis souvent, malheureusement, ça arrive dans la période de Pâques.
Exactement.
Et très bientôt.
Ce qui va recommencer. Écoute, il faut deux, trois nouvelles encore, même pas là, une ou deux. Alain, j'aimerais ça que tu reviennes sur la conférence du Conservative Political Action Conference qui a eu lieu en fin de semaine.
Oui, vendredi dernier, parce qu'on sait que Donald Trump a donné un discours, mais il y a aussi Donald Trump Jr. qui a donné un discours, ça c'est le vendredi. Mais juste avant lui, il y a eu un orateur qui s'appelle Hiraoki J. Aiba. J'espère que je le prononce bien.
Ouais.
Lui, il est un des leaders d'un parti conservateur japonais. Et il a été dans l'organisation de ce qu'on appelle une religion qui s'appelle Happy Science, science heureuse. Et eux, évidemment, c'est une secte religieuse qui avait un remède miracle contre la COVID-19 et ça coûtait 400 $ pour l'avoir. Mais cette religion-là a été fondée par un ancien de Wall Street qui s'appelle Ryuho Akawa, qui lui disait qu'il était une réincarnation de Bouddha, qu'il était la suite des Elohim En veux-tu, en voilà, le syncrétisme ou la synthèse de toutes les religions était sur lui. Tout était là-dedans.
Ouais.
Ça a fait de l'argent. Il roulait jusqu'à 45 millions par année de revenus, wow. Là. Et ils ont fondé un parti politique de droite au Japon, qui n'a pas encore fait élire de député, mais qui est reconnu. Et le travail de Hirohaki Aeba, c'est de se coller à tout ce qui est conservateur et donner des discours pour montrer l'importance de la droite japonaise. Et il le fait à cette fameuse convention-là du Conservative Political Action Conference de vendredi où il y avait M. Trump. Et lui, il a parlé juste avant Trump Jr. Mais il n'y a aucun journal qui a fait ressortir ça. Moi, je lis le livre, j'ai dit, je pense que ce serait important de voir est-ce qu'on prend n'importe qui pour aller faire des discours dans ces conférences-là. Parce que quand même, le gars, son organisation, on va vous guérir de la COVID, puis ça coûte 400 $.
Ah oui.
Oui, c'est vraiment un problème
c'est pas
là, de cette religion-là. Mais lui, il essaye, d'après moi, de dire, écoute, moi, je suis plus la branche politique. Mais il faut toujours voir au Japon, on a souvent eu ça, branche politique et religion de l'autre côté. On l'a vu dans différentes sectes qu'il y avait au Japon, parce qu'on veut toujours contrôler une politique.
OK, puis la dernière, la Convention baptiste du Sud, toujours aux États-Unis.
Aux États-Unis, bien là, on vient de perdre des joueurs, on commence à exclure des églises, où là, il y avait deux églises qui ont été exclues, parce que la Convention baptiste, c'est une des plus importantes aux États-Unis, c'est à 14 millions de personnes qui sont membres de ça, de ce groupe chrétien-là. On exclut deux églises, parce que il y avait des passés de pédophiles effrayant. Dans un cas, je pense qu'il y avait au-delà de 100 agressions sur des jeunes, 100 agressions sur des jeunes. Et l'autre, c'est qu'on dit qu'ils sont trop, deux autres églises qui sont trop conciliants avec les LGBT. On dit non. Ils disent parce que chez nous, les chrétiens doivent s'opposer au racisme, à l'avarice, l'égoïsme, le vice, toutes les formes d'immoralité sexuelle, telles l'adultère, l'homosexualité et la pornographie. Et là, il y en a deux qui permettent aux couples LGBT de s'affirmer et de prendre part dans les différentes églises. Et là, ces deux églises-là ont été exclues du groupement, qui est un groupement majeur, la Convention baptiste. C'est gros, là. C'est, je pense que c'est le plus gros après les chrétiens catholiques.
Bon, c'est toujours encourageant d'entendre ça. Loïc, Alain Pronkin.
Moi, c'est Alain.
Ouais, non, je sais, Loïc qui était là tantôt, puis il s'en vient tantôt. Bon, ouais. Alain Pronkin, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Oui, et ne sois pas inquiet, il va y avoir plein d'autres nouvelles, Benoît.
Ah, j'en doute pas. Salut, merci.
Merci, bonne journée.